pas si ça marche. Oui, bonjour. Donc, je suis Simon Bréhan, je vais animer cette table ronde de présentation de Aïerdal, qui est présent parmi nous, voilà. Avec Jean-Claude Duniac également et Gilles Francescano. C'est un petit problème de tuilage, ils sont en train de se rafraîchir, ils arrivent. Je profite donc de ces quelques mots avant de vous présenter, de toute façon on ne les présente plus vraiment, mais je le ferai quand même. Je profite de ces quelques instants pour vous signaler que à la librairie des Utopiales viennent d'arriver des exemplaires de la nouvelle édition de Étoile Mourante, qui est un très bel objet publié par Mnemos, que vous pourrez donc trouver s'il en reste des exemplaires à la librairie. Mais nous allons avoir l'occasion d'en reparler. Alors, maintenant que tous nos participants sont présents, je vais les présenter et nous allons pouvoir commencer à discuter. Je précise que j'aime bien ouvrir en cours de route le champ des questions, donc de manière ponctuelle, on prendra quelques questions au fur et à mesure, en fait, pour être sûr que vous ayez l'occasion d'interagir avec vos auteurs préférés. Alors, pour présenter dignement Aïerdal, Jean-Claude Duniac et Gilles Francescano, il faudrait énormément de temps, une présentation de niveau universitaire éventuellement, mais ce n'est pas là pour ça que nous sommes là. Et je vais me contenter donc de rappeler quelques éléments que vous connaissez certainement, à savoir que Aïerdal est l'auteur de nombreux romans de science-fiction qui ont reçu plusieurs prix, La Bohème et l'Ivraie, Mittal, L'Histrion, Parleur ou Les Chroniques d'un rêve enclavé, et plus récemment, plusieurs thrillers qui incluent généralement des aspects spéculatifs, Transparence, Résurgence, et plus récemment Rainbow Warrior et Bastards, au Diable Vauvert. Jean-Claude Duniac est lui docteur en mathématiques, ingénieur dans l'aéronautique, et il s'est avant tout distingué comme nouvelliste. Il a écrit plus d'une centaine de nouvelles qui sont reprises, que vous pouvez trouver dans des anthologies éditées par La Talente, sous de très belles couvertures, elles aussi.
De Gilles Francescano, les couvertures.
Voilà. Il est évidemment aussi l'auteur de nombreux romans, dont Étoile morte, dont nous aurons l'occasion de parler aujourd'hui, qui a donné lieu, et c'est en grande partie pour cela que nous sommes là, mais ce n'est pas la seule raison, qui a donné lieu à une suite Étoile mourante, dont je vous disais donc elle vient d'être rééditée, le livre vient d'être réédité par Mnemos sous une nouvelle présentation, avec une nouvelle couverture là aussi de Gilles Francescano, mais nous aurons plus de détails sur l'origine de toutes ces images, dont certaines vont défiler derrière nous probablement bientôt. Étoile mourante, qui donc a été écrit en collaboration par Aïerdal et Jean-Claude Duniac pour produire l'un des plus remarquables space opéra français. Pourquoi l'intelligence au service de l'imaginaire ? Car c'est quand même le sous-titre de cette table ronde. N'oublions pas l'intelligence et voyons un petit peu en quoi elle concerne nos auteurs. Eh bien, comme Étoile mourante, notamment, en fait la démonstration, Aïerdal et Jean-Claude Duniac aiment les personnages intelligents, c'est-à-dire exigeants, lucides, astucieux, qui sont guidés par la soif de connaître et de comprendre. D'autre part, comme la variété de leurs approches dans leurs différents ouvrages le montre, ils s'intéressent aux intelligences extraterrestres, aux intelligences artificielles, d'une manière générale, ils s'adressent à l'intelligence de leurs lecteurs en les incitant à jeter un regard neuf sur notre monde. Nous n'aurons peut-être pas le temps d'en parler, puisque je m'aperçois que finalement les gens peuvent parler longtemps, mais j'aimerais bien éventuellement aussi parler d'un autre type de service que rendent les intelligences ici présentes à l'imaginaire, c'est-à-dire leur engagement au fil de leur carrière pour les autres auteurs, pour faire avancer des causes qui sont les causes des écrivains, et pour notamment réfléchir à la question de l'édition numérique. Mais ça, nous verrons si nous avons le temps. Et donc, pour aborder tous ces aspects et bien d'autres, et je m'aperçois que, évidemment, j'ai oublié de présenter Gilles Francescano, excusez-moi, mais je présente Gilles Francescano, excusez-moi.
Tu avais dit que c'était plus tard, donc je me suis pas
oui, inquiété. Voilà, mais en fait, j'ai débordé sur mon propre temps, excusez-moi. Donc, Gilles Francescano, artiste, illustrateur et commissaire d'exposition, puisque c'est à lui que nous devons les très beaux accrochages des Utopias, notamment celui de cette année. Donc, très beaux accrochages depuis 5 ans, au moins, c'est bien ça. Donc, artiste et illustrateur qui a travaillé avec de nombreuses maisons d'édition et pour illustrer les ouvrages de nombreux auteurs, notamment d'auteurs français, qui a fait partie du projet Étoile Mourante et qui, nous le verrons tout à l'heure, fait partie des inspirateurs, des inspirations d'Ayerdal et Jean-Claude Duniac. Mais ils en parleront un peu plus tard, au fur et à mesure. Donc, je reviens, excusez-moi pour ce petit oubli, sur le fait que nous allons aborder plusieurs aspects aujourd'hui. D'abord, la question de l'intelligence créatrice, la question de l'intelligence spéculative, la question de l'intelligence sociale, à travers les œuvres, évidemment, de nos auteurs, et, si nous avons le temps, la question de l'intelligence révoltée. Alors, premier point, l'intelligence créatrice. Et donc, j'aimerais ici partir d'Étoile Mourante, même si ça n'est pas chronologiquement, évidemment, le début de vos carrières, mais j'aimerais partir d'Étoile Mourante. J'aimerais que vous reveniez un petit peu sur la question de la genèse de ce livre, de ses différentes inspirations, et notamment, j'aimerais que vous nous expliquiez comment vous avez pu travailler en bonne intelligence, comment vous avez collaboré les uns avec les autres. Alors, saisissez-vous d'une chose.
Je prends le premier. Ben, je crois que ça a été la rencontre d'une conscience et d'un ressenti. Une conscience sociale, sociétale, tu parlais d'intelligence justement révoltée, et de quelqu'un qui était, je dirais, conscient, mais d'une autre façon, avec un ressenti différent, des mêmes problèmes. Et en fait, on est arrivés tous les deux, je dirais, au même endroit, deux directions extrêmement différentes. Et se trouvant là, on a commencé à discuter et on s'est aperçu que ben, de nos réflexions naissait quelque chose qui nous donnait envie. Moi, j'ai lu Ayerdal au Fleuve Noir dès qu'il a commencé à être publié et j'ai décidé, ça a été instantané, ça a été même la moitié du premier bouquin, de dire « il faut que je parle à ce type ». C'était à la fois une admiration et aussi une frustration de me dire mais pourquoi est-ce que tel aspect est laissé de côté ? Et je pense qu'il a eu le même type de réaction. Et donc quand on s'est rencontrés, la première chose qu'on a faite, c'est prendre un pot et de commencer à discuter. Et on a monté petit à petit. D'abord, on s'est montré nos textes. Le premier travail a été un travail d'apprivoisage textuel. Je te montre ce que je fais, tu me montres ce que je fais, et on ne le montre pas pour dire « oh, comme c'est bien », etc., mais pour sortir le crayon rouge en disant « là, tu vois, moi, je ferai comme ça, et il y a manière d'aller plus loin ». Et ayant fait ça, à un moment donné, on a dit « il semblerait qu'une bonne façon d'apprendre, d'enrichir, serait de travailler ensemble ». Parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes des intelligences, une forme d'intelligence dont tu ne parles pas, mais l'intelligence besogneuse. Nous apprenons en faisant. C'est ce que je fais qui me dit ce que je cherche. Ça, c'est pas de moi, c'est d'un très célèbre artiste, mais c'est vraiment ça. C'est en écrivant, en faisant, qu'on a compris ce qui nous manquait.
Ouais, alors là, comme tu as tout dit, voilà. Qu'est-ce que je vais ajouter ? Non, si, cette dimension de travail, ce qui a été... donc, c'est la même démarche qui m'a conduit à travailler avec Jean-Claude. La rencontre a commencé par l'intermédiaire de textes. J'avais lu tes textes comme tu avais lu les miens. Et puis la découverte aussi qu'il y avait des choses que tu savais faire que je ne savais pas faire, des choses que moi je savais faire que tu ne savais pas faire. Et l'idée de travailler ensemble était l'idée de nous déjà de créer un troisième auteur. C'est un auteur qui soit Ayerdal Duniac et qui ne soit pas Ayerdal et Jean-Claude Duniac, mais qui a un Ayer Duniac ou voilà. Quelque chose de différent, de plus. Mais surtout de nous faire bosser l'un l'autre sur nos faiblesses. J'avais de grosses faiblesses descriptives, particulièrement dans les domaines de la sensualité. Je les ai toujours, mais elles sont heureusement passées au filtre de Jean-Claude. Donc, j'ai moins de mal à y aller. Mais c'était, voilà, il y avait cette notion de travailler. On est parti dans un échange avec un but constructif. Apprendre l'un de l'autre, aller le plus loin possible et profiter du fait que même si nous avons non pas un regard différent sur le monde, mais une façon différente de nous percevoir, des ressentis différents. Moi, je suis facilement en colère, Jean-Claude est facilement analytique. Et donc, d'emmêler tout ça pour aller le plus loin possible dans un texte qui était le reflet. On s'en est aperçu en écrivant le scénario petit à petit, mais qui était le reflet de nos perceptions du monde et de ces dissensions à l'échelle de notre maigre boule qui conduisaient, à notre sens, l'un pour l'autre, sans que ce ne soit jamais dit d'ailleurs, qui conduisaient l'humanité au carton. Quoi. Voilà.
Alors, Gilles, comment c'est passé? Comment est-ce que tu t'es inséré dans cette dynamique? Est-ce que tu as fait d'abord la couverture, notamment d'Étoiles mortes, pour le livre de poche?
En fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que lorsque j'ai commencé à illustrer au Fleuve Noir, je crois me souvenir qu'Ayerdal est arrivé en troisième roman illustré de ma carrière d'illustrateur. Donc, on s'est rencontrés assez rapidement. Et donc ça n'avait jusqu'alors il n'y avait pas de raison de parler d'Étoiles mortes et d'envisager qu'on se retrouve ici 15 ans après, enfin 20 ans ou 25 ans après à parler encore d'Étoiles mortes. Donc c'est d'autant plus surprenant pour moi aujourd'hui. Mais donc illustrant Ayerdal à ses débuts, hein, on peut dire ça comme ça, puisque c'était La Bohème est livrée, donc en 4 tomes à l'époque. Je vois arriver ensuite Étoiles mortes de Jean-Claude Duniac et mais je ne sais pas ce qui s'est passé en fait, parce que sur Ayerdal il y avait une atmosphère qui devenait, je pense que si tu me trompes, enfin tu me dis si je me trompe, je pense qu'Étoiles mortes est arrivée en publication alors que tu étais presque sur Sibione.
Oui, il a publié.
Ça doit être sur ce type de période.
Il a publié le Demain une oasis en même temps.
Voilà, et donc, ce que je trouvais d'organique, de charnel dans La Bohème est livrée, par exemple, texte de jeunesse, le rapport, les humains, enfin, les caractères même des personnages, je les retrouvais ensuite, moi, dans Étoiles mortes, en fait. Et alors, sans faire le lien, forcément, puisque moi, j'ai juste illustré l'un et ensuite l'autre. Et puis, il se trouve que le Fleuve Noir a eu la bonne idée de faire un pot un soir et la totale éclipse est arrivée.
Mais quand même, petit détail, la raison pour laquelle tu as illustré Étoiles mortes, c'est que j'avais explicitement demandé que ça soit toi. Parce que j'avais tellement été bluffé par les couvertures que tu avais faites pour Yal que j'ai demandé à l'époque à la directrice.
Parce qu'il y avait des seins nus.
Quoi ?
Parce qu'il y avait des seins nus.
Ça devait être ça. Je vais me dire que commercialement, ça marcherait. Mais j'avais tellement été bluffé par ça, je me suis dit, lui, je le veux. Et comment elle s'appelait ? Nicole Hibert m'a dit, ouais. Pas de problème, je te le donne, tu l'auras. Et pour moi, c'était un truc fondamental. Et tu le sais, pour la petite histoire, l'illustration que vous avez là, juste avant, là, les deux, elle est chez moi. L'original est chez moi. Mon épouse me l'a offert pour mes 40 ans. Et je sais qu'à un moment donné, il y a eu un moment très fort, Yal et moi, on était en train d'écrire Étoiles mourantes et on butait sur notre espèce de vision respective des animaux vils. Et je l'ai planté devant le tableau. Je lui ai dit, mais rappelle-toi, c'est ça. Et là, il a regardé, il a dit, ah ouais, d'accord.
Oui, donc il y a aussi un effet de rétroaction dans la question de la création à partir des illustrations, des images mises au point par Gilles.
Oui, totalement. Enfin, Jean-Claude disait total en aparté. Mais effectivement, Jean-Claude m'a replanté devant le travail de Gilles en disant voilà comment j'ai créé les animaux vils. Voilà, ils sont là, t'as plus qu'à. Et donc, je dois avouer que ça facilite énormément le travail créatif littéraire à partir du moment où il y a un repère visuel et la possibilité d'évoluer. C'est-à-dire qu'une image en 2D, ça a un défaut, c'est qu'on voit que la surface. Mais avec les imaginations un peu délirantes qu'on a, on rentre dedans et on prend la chair, en fait, de ce qui...
Gilles, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce, justement de ces, ces images là, cette, de ce, cette fresque que tu as pu faire?
Ça s'est déroulé un petit peu dans un second temps, puisqu'en fait il y a eu donc Étoile Morte, il y a eu ensuite nos parcours respectifs, on a continué, et puis un jour, enfin en tous les cas moi de ce que j'en percevais, il y a eu Étoile Mourante. Étoile Mourante est arrivée, a été publiée en 99 si je me souviens bien. C'était le premier volume de la collection Millénaire chez J'ai lu. Et il se trouve que pour la petite histoire, Étoile Mourante arrivait moi dans ma relation professionnelle avec J'ai lu juste après Parleur. Parleur ou les chroniques d'un rêve enclavé du, disons, commis par mon voisin. Et il se trouve que Parleur, nous avions eu un petit différend avec l'éditrice à ce moment-là concernant la couverture du livre. Ce qui fait que ce différend, plus le fait que Étoile Mourante devait sortir pour une nouvelle collection, il était, de leur point de vue, hors de question que je fasse la couverture d'Étoile Mourante. Et bon, moi, il se trouve que j'ai, entre guillemets, vécu, subi, accompagné, enfin, on cochera le terme, les 4 années de gestation et d'accouchement de Étoile Mourante en étant très proche voisin d'Ayerdal à ce moment-là, quand Jean-Claude venait le voir pour qu'il puisse travailler. Donc moi, du coup, j'étais déjà imprégné d'Étoile Mourante. J'avais qu'une hâte, c'était faire la couverture de ce livre. Et donc, l'éditrice m'apprend que je ne ferai pas la couverture. Donc j'étais un petit peu frustré. Et vu que, comment dirais-je, je suis un peu... soupolé, peut-être on dira, ce qui fait que là, du coup, j'ai eu une réaction peut-être un peu disproportionnée. Et du coup, j'ai fait une fresque dont on peut voir quelques images par la suite là, dans les diapos qui passent. Là. J'ai fait une fresque concernant Étoile Mourante, une fresque qui fait 22 mètres de long par 2 mètres de haut. Et c'est une fresque qui est démontable puisque on la met en scène sous la forme d'un cube. C'était pour moi la manière aussi de faire un environnement, hein, puisque je suis un amoureux fou de Hans Rüdiger, comme on l'a vu dans l'heure précédente. Et Hans Rüdiger étant aussi un peintre qui a aimé faire des environnements dans lesquels on se baignait. Voilà, ça c'est la fresque sur son déployé complet. Là, on voit Hans Rüdiger dans mon cube à moi. Donc, c'était une manière de créer un univers et de montrer comment moi j'avais perçu ce livre qui est pour moi immense. Et du coup, cette fresque, je l'ai promenée sur mon dos dans les expos, dans les choses comme ça. Et elle n'avait jamais été utilisée en publication jusqu'à la réédition d'Étoile Mourante chez J'ai lu en poche. Voilà. Et j'ai toujours la fresque et j'espère qu'on la ressortira un de ces jours pour la montrer.
Oui. Ton cube à toi. Oui.
Alors, on va peut-être prendre une ou deux questions du public et ensuite passer à la question de spéculation. Alors, y a-t-il des questions à ce stade?
Alors, le numéro 117.
Donc, il y a une question là. Voilà.
Juste une petite question sur la technique de l'écriture à deux. Le piano à 4 mains, j'arrive à imaginer. 4 mains sur une feuille de papier, ça ne me paraît pas possible. Donc on fait commencer des allers-retours en fait, d'essais qui sont corrigés, recorrigés, remodifiés.
Alors il faut savoir qu'on a bénéficié d'une chose extraordinaire. Il faut vous rappeler qu'on était quand même au Moyen-Âge. On était en 1994, hein, 95, quand on a commencé à vraiment travailler là-dedans. Mais on avait deux choses qui fonctionnaient. C'était Internet. Ça paraît bizarre de dire qu'Internet fonctionne à notre époque, mais croyez-moi, il y a 20 ans de ça, c'était pas du tout gagné. Et on avait un truc que Word avait mis dans sa nouvelle version, qui était le suivi des modifications. Donc on pouvait savoir ce que chacun corrigeait et faisait. Et donc on s'est tout simplement échangé des fichiers, et on a travaillé. Et puis de temps en temps, parce qu'on en avait besoin, on allait chez l'un ou chez l'autre. En général, on se faisait la bouffe. Beaucoup de nos discussions ont fonctionné en cuisine. Tu vois, tu parlais du piano, ben notre piano à nous, ça a été un piano de cuisine. Et ensuite, au fur et à mesure que le livre avançait, les pans individuels devenaient de plus en plus resserrés, ce qui fait que le tricotage entre ce qu'écrit l'un et ce qu'écrit l'autre est de plus en plus serré. Et les dernières pages, c'est pratiquement une phrase chacun. D'accord ? Donc au début, on a... Alors chacun, évidemment, a retravaillé le texte de l'autre. Ça, c'est évident. Il n'y a rien de pur.
Avec liberté totale d'intervention. Ouais.
Absolument, il n'y a rien de pur, ce n'est que du métissage. Nous revendiquions parmi les messages, entre guillemets, qu'on essayait de faire passer, que le contact de l'autre, le métissage, l'apprentissage en commun était une chose fondamentale. Ben, on a commencé, en toute évidence, à se l'appliquer à nous-mêmes. Il était hors de question de faire du territoire privé, au contraire. D'accord ? Donc on a fait ça, on s'est marché dessus. Mais on s'est marché dessus avec le sentiment qu'on escaladait la même montagne, et qu'on allait vers le même endroit, et qu'on parlait avec gourmandise, chacun avec son langage, des mêmes choses.
ça facilite les choses. Et puis, quand il y a quelqu'un qui sait, qui à un moment donné vous regarde et vous dit non, on peut le faire comme ça, et qui vous le montre, et que c'est lumineux d'évidence, bon, on le garde.
Oui, je vais rajouter deux ou trois choses, mais je peux difficilement aller plus loin que ce qu'a dit Jean-Claude s'il nous rappelait que de temps en temps, au-delà du piano de cuisine que nous partagions à chaque fois que nous avions l'occasion, il y a aussi des balades dans la nature. Voilà,
des nuits, on a le nombre de nuits blanches qu'on a passées, lui et moi, à attendre le soleil se lever tout en refaisant le monde, refaisant le bouquin, puis ce qui revenait un petit peu au même, s'engueulant deux fois, se réconciliant trois fois et recommençant. On a passé quelques heures. Hein. Je crois que je n'ai jamais passé autant de nuits blanches qu'avec toi, en fait. Même de mon époque musicien de rock, où je passais justement par définition des nuits blanches avec les groupes, mais je crois que j'en ai passé plus avec toi.
Oui, c'est fort possible. Et en plus, on se levait tôt le lendemain. On ne le faisait pas exprès, c'était l'excitation de travailler ensemble. Dans les trucs amusants, quand on a commencé à bosser, donc Jean-Claude m'a envoyé quelques pages que j'ai enrichies.
Au début, ça devait être une nouvelle. Hein. Je vous préviens tout de suite. On avait décidé de faire une nouvelle. Donc, vous voyez, quelque part, on s'est planté. Hein. Il faut quand même le dire.
C'est pas la nouvelle la plus longue. Hein. On en a écrit des beaucoup plus longues depuis, mais... Mais c'était quand même une nouvelle. Donc, le scénario qui devait faire, je sais pas, le premier synopsis que tu avais envoyé, il faisait 8 pages.
Oui, un truc comme ça.
Il est reparti, il en faisait 15. Il est revenu, il en faisait 35. Il est reparti, il en faisait 50. Il est revenu, il en faisait... Pendant un an, on a échangé, on a construit l'univers dans lequel nous allions travailler. Sans entrer dans la précision, vraiment. Mais en mettant... en découvrant petit à petit tout ce qu'on avait envie de faire et de mettre dedans. Et on est arrivé, alors je ne sais plus, à 260 000, 280 000 signes.
Oui, à peu près, oui, entre 250 000 et 300 000, je ne sais plus très bien.
Enfin, de scénarios.
De scénarios et de trucs qu'on n'a pas mis, mais qui sont... on peut vous parler de la gastronomie des différents rameaux, on peut vous parler de leur forme d'art, on peut parler de leur rapport à la mort et à la mémoire, on peut vous parler d'articles scientifiques sur un certain nombre de choses qui se produisent, mais qui ne font que deux lignes dans le bouquin. Oui. Mais ça nous intéressait, on accumulait du matériau.
Mais ce qui est très drôle, c'est tout ce qui n'y est pas. Il y a plein de choses qui n'y sont pas du tout. Il y a par exemple un truc, il y a un cinquième rameau que vous n'avez jamais vu, qui a existé jusqu'au moment où Jean-Claude et moi nous sommes aperçus que là, on tapait déjà dans les 2 millions de signes, il fallait peut-être se calmer et simplifier un petit peu. Il y a d'autres choses qui naîtront, qui vont un jour se produire, mais là, je suis en train de révéler l'avenir, ce qui est quand même dommage, vu que vous ne m'avez pas versé votre quote-part.
D'accord. Alors, passons maintenant à la question, enfin, la place de la spéculation et plus spécifiquement... La manière dont vous envisagez les représentations d'intelligence autre que intelligence humaine, mais toujours en interaction avec les humains. Il y a cette particularité, puisque évidemment, on peut élargir à toutes vos œuvres, hein, mais en partant d'étoiles mourantes, ce qu'on voit, c'est d'une part les animaux vils qui viennent d'étoiles mortes au départ, qui sont des intelligences extraterrestres presque incommensurables, enfin, disons inaccessibles au départ à l'esprit humain. On a toutes les créations humaines qui accompagnent l'évolution des différents rameaux, que ce soit les ambiotes, que ce soit les armures des mécanistes, ou que ce soit les simulations virtuelles déconnectées, par exemple. Comment travaillez-vous en général lorsqu'il s'agit d'envisager des intelligences qui sortent, un petit écho à la table ronde précédente, qui sortent des standards humains, en partie?
C'est vaste et c'est pas forcément facile à expliquer. Je pense que c'est pas tout à fait un hasard si, depuis que nous savons lire, nous lisons. Dans ce que nous lisons, il y a une part très importante d'ouvrages de science-fiction qui nous ont amenés petit à petit, les uns et les autres d'ailleurs, à développer des facultés de maîtriser notre imaginaire, Je ne sais pas si c'est bien dit, ça. Mais en tout cas, à partir de choses qui sont complètement imaginaires, d'essayer de les structurer pour que ça ait un sens, pour que ça tienne debout. On a beaucoup travaillé avec des scientifiques quand on a écrit Étoile mourante, parce que dès qu'on a commencé à jouer avec les musées de Kaptein ou de Sierpinski, on avait besoin quand même du retour de Jean-Pierre Luminet, entre autres, de Jean-Louis Trudel, François Châtelain, etc.
Faut savoir quand même qu'il y a un article scientifique que j'ai écrit qui est né de réflexion d'Étoile mourante. C'est un des cas de fiction fécondante vis-à-vis de la science. Parce qu'on dit toujours que la science féconde la fiction, mais le contraire peut marcher.
Et concernant Étoile mourante en lui-même, on était deux, on avait quand même repéré un certain nombre de mécanismes. Jean-Claude est quelqu'un qui a une maîtrise de l'intelligence symbolique et symboliste, qui sait merveilleusement les comprendre et surtout les adapter en fonction de ce qu'il a à raconter. Lisez Dudugnac, hein, je veux dire, c'est très très simple. Si vous ne voyez pas les symboles, c'est que vous êtes passé à côté de quelque chose. Il vous a simplement eu, parce que c'est un trop bon auteur, il vous emporte sans vous montrer à quel point il a distillé tout ce qui vous permettra à un moment donné ou à un autre de comprendre que ça va beaucoup plus loin que les phrases qui sont écrites.
Et c'est en couleur.
Mais c'est vrai, c'est en couleur. Oui, ça c'était aussi... on l'a pas dit. L'un de nos objectifs principaux d'Étoile mourante, c'était de terminer en couleur. Voilà.
D'écrire le texte en couleur à la fin ?
Non, d'écrire quelque chose dans lequel le sensorium, c'est-à-dire ce que les gens allaient ressentir, était total, qu'il y ait du bruit, qu'il y ait des odeurs, qu'il y ait des... Je sais pas, qu'il y ait des couleurs. Et surtout, on avait la chance, on s'appuyait sur le monsieur qui est là-bas, là. C'est-à-dire que quand on écrivait le bouquin, on avait cette espèce de retour permanent de la personne qui voyait ce qu'on écrivait. Parce que la grande difficulté qu'on a quand on est auteur, c'est qu'on écrit, on décrit, on vous raconte. Qu'est-ce que vous voyez ? La première frustration, si on n'est pas sûr que vous allez voir quoi que ce soit, on aimerait bien, mais on n'en est pas sûr. Et quand vous avez quelqu'un qui illustre ce que vous faites et qui dessine simplement ce que vous aimeriez qu'il ait vu, vous vous dites, mais ça a marché. La communication a pu se faire. Et lui, en plus, il fixe et il va plus loin. Ce qui fait qu'il nous renvoie une idée des animaux villes avec laquelle on joue, et on lui renvoie quelque chose avec laquelle on joue, et on a fait tout ce travail-là. On vient de faire là, ce travail d'édition, ça a été encore l'occasion de se dire, voilà, symboliquement, tu le vois comment ? Comment tu fais ton petit symbole de l'un et de l'autre ? Et ça, c'était marrant. Et donc, c'était une de nos ambitions, Yann et moi, de dire, OK, à la fin, on ne se contentera pas simplement d'avoir une histoire, on aura une mise en scène et une mise en couleur, une mise en son, une mise en odeur, etc., qui devrait marcher, qu'on aimerait qu'il marche.
Mais alors, Gilles Francescano, justement, à quand la représentation en odorama de la fin d'Étoile mourante ?
Ça ne saurait tarder, je pense. On va voir. Ça ne saurait tarder.
Et plus sérieusement, qu'est-ce que ça représente ?
Non, mais ça, c'était une réponse sérieuse.
Ah, d'accord. Mais moi, c'était une question pas sérieuse, donc c'est bon ça. Et qu'est-ce que c'est que de représenter, justement ? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ce que tu, de la manière dont tu travailles, dont tu prends ce qu'ils ont produit pour en faire une création nouvelle ?
Alors sur la question, il peut y avoir deux réponses. C'est par rapport à la couverture d'un livre, par exemple, de ma manière de travailler, que ce soit avec Ayerdal ou avec Jean-Claude. Et l'autre réponse, c'est concernant les animaux villes, par exemple. Parce que bon, c'est vrai que sur les textes, moi j'ai plutôt tendance à digérer le texte et à essayer d'illustrer au moins le sens de ce que moi j'ai perçu du texte et des intentions de l'auteur. Pas vraiment rester dans l'anecdote ou dans la scène. Mais les animaux villes, par contre, c'est... Tu vois, 25 ans après, c'est une couverture dans laquelle je me glisse, une couette chaude dans laquelle je me glisse avec délectation. Et c'est vraiment, moi, quelque chose qui me renvoie... On a parlé de Hans-Rudi Giger pendant une heure sur la table précédente, par exemple. Là, d'ailleurs, encore en photo, là. C'est proche du charnel. Je pense que Jean-Claude est entièrement d'accord avec ce que je dis concernant le charnel des animaux villes.
On est d'accord.
Et lorsque je m'attaque, disons, à l'architecture, à ce fourmillement de vénules, de rues, de structures, j'ai vraiment effectivement l'impression de m'envelopper là-dedans pour essayer de voir qu'est-ce qui va en ressortir. J'ai hâte de continuer.
du point de vue spéculation, c'est une petite transition aussi vers la question de l'intelligence sociale, mais qu'on abordera plus frontalement après. Mais finalement, la manière dont vous envisagez donc ces avenirs, ces formes d'humanité dans les différents rameaux ou dans vos différentes œuvres, me semble assez souvent frappée d'une forme d'optimisme. Assez lucide, avec toujours cette crainte du retour des mêmes erreurs et des mêmes tendances structurelles. Mais en même temps, c'est une humanité qui va de l'avant, celle de vos œuvres, et une humanité qui a un avenir.
Oui, enfin, c'est clair. On a de ce côté-là le sentiment qu'il y ait un avenir, c'est pas évident. Et aussi, nous sommes, lui et moi, des agitateurs, nous sommes des grains de sable. Et donc, on sait qu'il y a des gens comme nous. On en a suffisamment autour de nous, on en rassemble, et on a cette capacité de foutre le bordel, mais de manière générative, de manière à éventuellement franchir certains obstacles. Donc, de ce côté-là, on se ressemble assez bien. Mais ce qu'on a créé, en fait, comme intelligence dans l'étoile mourante, et encore une fois, ce n'est pas un processus décidé. C'est un processus qui est venu du fait qu'on convergeait sur cette vision du monde. Nous avons créé dans chacun des rameaux des symbioses, des métissages, mais des symbioses dont aucun ne marche. C'est-à-dire qu'on se contente d'être d'avoir une symbiose avec ce que l'on a de plus extrême. Le mécaniste avec son armure, le connecté avec son intelligence. Donc, il y a à un moment donné, on ne parle qu'à soi. Et on a l'impression de s'être métissé, et c'est probablement vrai, mais on est dans un cul-de-sac. Le pire étant peut-être les originels qui, en fait, passent leur vie à fabriquer le fantôme qui leur succédera et qui, par définition, étant beaucoup plus simple et beaucoup plus, je dirais, basique que ce qu'ils sont, ils finissent Front National, quoi, d'une certaine façon. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça, c'est la preuve qu'il y a un échec. Et l'idée du livre, qui était une idée qui pour nous était fondamentale, vraiment c'était au cœur du truc, c'était de dire, mais cassons tout ça, allons à la rencontre de l'autre et acceptons une présence qui soit comme un caillou dans la chaussure, mais qui, parce qu'il est là, t'oblige à voir les choses autrement. Et je peux vous dire une chose, moi, qui me perturbe en fait en ce moment beaucoup, pour avoir relu le livre dernièrement et l'avoir revalidé par rapport à la nouvelle édition, il y a 20 ans de ça quand on l'a écrit, on était persuadé que le communautarisme était une chose qui allait se produire et on se disait, c'est pas possible, il faut lutter contre ça, sur le fait qu'on se replie sur soi, qu'on se découpe en morceaux pour rester entre soi. Au niveau de l'humanité, ça nous paraissait une connerie, mais apocalyptique. Et on se disait, les gens sont assez intelligents pour ne pas le faire, et notre livre était une façon d'expliquer que non, il faut pas faire ça. 20 ans plus tard, ben, je suis désolé, on est en plein dedans. Moi, j'entends mes amis belges qui me parlent du fait qu'on est désespérément en train de couper la Belgique en deux. Je veux dire, on voit des pays qui se sont recréés sur une certaine idée du moi et nous, et par rapport aux autres, qui sont des choses qui atteignent des proportions de repli sur soi totalement invraisemblables. Et 20 ans après, on se dit, merde, tout ce dont on a pu imaginer que ça pourrait se produire du pire est en train de se produire, c'est produit. Et donc, la relecture que je fais de mon propre livre n'est plus du tout la même. Et vraiment, on a voulu vivre ça, on a essayé de lever le drapeau, en disant, les mecs, allez à la rencontre, allez au contact, embrassez-vous. Mon seul titre de gloire dans la science-fiction, c'est d'avoir réhabilité le Poutou, qui est le bisou toulousain. C'est mon seul titre de gloire, mais c'est
moi,
celui
c'est
que
bisou, je revendique. Le Poutou lyonnais, quoi. Ouais.
Mais ça, vraiment, on s'est posé cette question-là, on s'est dit, d'accord, sur le plan des intelligences, on essaie de passer au stade après, mais on n'est arrivé que dans des cul-de-sac. Et la seule façon d'arriver à quelque chose... En fait, le bouquin intéressant, c'est celui qui va suivre. C'est là où, avec un peu de chance, on va essayer de reconstruire avec moins de conneries ou avec d'autres conneries.
On va être obligé de tenir compte de ce que nous ont appris les étoiles, d'une part, et puis l'essentiel de notre travail dans l'ensemble, puisque par l'intermédiaire de nombreuses nouvelles en ce qui te concerne et de quelques romans en ce qui me concerne, on a essayé toujours, à un moment donné, d'éveiller une forme de réflexion, en tout cas des questionnements vis-à-vis de l'humanité. Demain une oasis, c'est un bouquin que j'ai écrit sous le coup de la colère en un petit peu moins de 4 semaines. C'était une colère qui était vieille, mais il y a eu un moment où j'ai été débordé, j'ai écrit Demain une oasis. J'ai réécrit plusieurs fois Demain une oasis, à chaque fois en enlevant des aspects science-fictifs de plus en plus, parce qu'il y a un truc qui est terrible, je l'ai écrit en 1991, c'est ça, oui, je l'ai écrit en 91. Aujourd'hui, nous sommes en 2015, non seulement la situation de la région que je décris de 2014-2015, je sais, ne pas oublier que je suis dans la science-fiction, moi, hein, toujours pas d'avance. En 2014, non seulement la situation des pays que je mets en scène n'a pas bougé d'un pouce, n'a pas évolué dans un sens positif, non seulement nous sommes toujours aussi égoïstes dans le reste du monde, mais en plus, tout ça empire. Et ça va se produire. Je pense que d'ici 2 ou 3 ans, je vais écrire une 6e ou 5e version de Demain une oasis. Cette fois, il n'y aura plus d'aspect science-fictif du tout. Je me contenterai de décrire ce qui se passe. C'est toujours affreux de s'apercevoir que quel que soit l'élan, qu'il soit par l'intermédiaire de la colère, de la générosité, des propositions, s'apercevoir 15 ans, 20 ans plus tard, que non seulement on n'a rien apporté, mais en plus il faut refaire tout le travail. Et c'est un boulot qu'on va être amené à faire tous les deux.
Tant qu'on aura l'énergie, on le refera.
Tous les 4, 5, 6. Enfin, voilà, y a quelque chose qui se prépare. On vous en parlera, je pense, à un moment donné ou à un autre tout à l'heure. Y a un travail à faire. Et la première va être de remettre en cause le travail qu'on a déjà effectué, qui n'a pas porté ses fruits. Donc, essayer d'apporter d'autres solutions. Tu parlais de la Belgique, c'est très intéressant. Je suis installé en Belgique depuis un peu plus de 6 ans et demi maintenant. Et pendant 6 ans, les Belges se sont foutus de ma gueule parce que j'étais français, parce que Sarkozy, parce que ensuite François Hollande, parce que Manuel Valls, parce que etc. Il y a maintenant 3 semaines, on a un gouvernement en Belgique. Les 5 principaux ministères sont tenus par des gens à côté de qui Marine Le Pen est d'extrême gauche. On a pratiquement le premier gouvernement fasciste en Europe. Personne ne le sait. Les Belges. Mais comment on va faire ? On est passé, je sais pas, rappelez-vous la période d'avant, ça faisait rire l'Europe entière. Un pays qui tient 2 ans sans gouvernement. Oui, en plus, il tenait très très bien, les fonctionnaires faisaient tourner le truc. C'était super rassurant. Et en l'espace d'un an, tout bascule. Et on est rentré dans ce que la plupart des pays européens redoutent. On est en plein dedans. On a le ministère de la Culture, le ministère de l'Éducation, le ministère de la Défense, le ministère de l'Intérieur et, qu'est-ce que j'oublie, un autre poste très 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 important, les Finances, qui sont aux mains d'extrémistes de droite. Yep. Je veux dire que maintenant, j'ai récemment écrit pour un éditeur américain une nouvelle sur Bruxelles. Il m'a été très difficile de me souvenir de ce qu'était Bruxelles il y a encore un mois. Parce que c'est en train de changer et c'est moche.
On va ouvrir les questions un petit peu. Donc, une ou deux questions. Est-ce que vous voulez réagir ? Vous voulez poser des questions ? Sinon, il y a une question là-bas.
Bonjour. Je suis perdu. Alors ma question, oui, c'est plus. Il y a des éléments, effectivement. Sans doute dans le monde qui nous font aller plutôt vers l'optimisme ou le pessimisme, mais est-ce qu'il y a aussi, vis-à-vis de votre évolution dans la carrière, enfin, votre avancée dans l'âge, dit autrement aussi, des éléments, en fait, qui naturels, enfin, on sait qu'on change avec, quand on avance dans l'âge, on est peut-être moins naïf ou idéaliste, et donc quelle est la part, vis-à-vis de votre vision du monde, de ceci ?
C'est une vraie question, et on a énormément du mal à y répondre. Parce que je pense qu'effectivement, nous avons perdu une certaine naïveté. Ou tout au moins, nous avons perdu un certain nombre d'angles qui, à l'usage, ne se sont émoussés, dont on a accepté qu'ils doivent s'émousser. Mais par contre, je te garantis une chose. L'indignation, les choses qui nous ont fait écrire ce livre, les envies et, je dirais, et de temps en temps, la révolte au sens premier, aussi bien chez Yal que chez moi, elle est toujours là. Et elle n'a absolument pas diminué, ni d'intensité, ni de direction. Tu vois ce que je veux dire ? Nous sommes encore capables, et nous le referons, d'écrire le livre qui va rappeler tout ça. Et lorsqu'on se rend compte qu'il faut le faire, on le fait. On est encore à l'âge où on va au charbon. Alors après, la prostate ne suit pas, je suis d'accord. Mais je te garantis que je me lève beaucoup plus souvent pour aller pisser quand j'écris. Mais ce léger détail mis à part, je te garantis que le livre va dans la même direction.
Je vais rajouter une couche un petit peu étrange. On communique énormément. Faut être très sérieux. C'est par mail, c'est par téléphone. C'est, on se voit souvent. Il y a des échanges. Et récemment, nous avons eu un échange relativement bref, très intime. On en a plein le cul d'un certain nombre de choses. Et on avait tous les deux, chacun de notre côté, pris la décision de lâcher prise sur certains trucs. Rien que le fait d'en avoir parlé et d'avoir pu se dire honnêtement, je suis en train de faire le choix de renoncer à des combats que je mène depuis des années, nous permet de ne pas abandonner. Va nous permettre d'aller plus loin dans la discussion, parce que depuis, on n'a pas eu le temps d'en parler réellement, mais on le fera. Et c'est surtout ne pas renoncer. C'est vrai qu'en ce moment, on est un peu fatigué. On est là, on voit qu'on s'est battu pour plein de trucs et que ça merde. On s'est donné à fond pour des retours qui sont parfois désespérants. Et on a eu le coup de blues en même temps, mais pile en même temps. C'est pas un hasard. C'est parce qu'aussi on communique tout le temps. C'est arrivé à Gilles, il n'y a pas si longtemps que ça, de nous envoyer aussi un truc, grosso modo, nous expliquant que l'illustration, j'arrête. Et qu'est-ce qui se passe du coup ?
D'ailleurs, j'ai dit après Étoile Mourante, j'arrête.
Non, mais bon. Voilà, du coup, on va être obligé d'en écrire 10 ou 12 pour qu'il continue. Non, non, attends.
Non, c'est clair. Il est clair qu'en vieillissant, les énergies ne suivent pas et les projets, on est obligé de les serrer. Mais ça ne veut pas dire qu'on renonce. On garde les endroits où on est le plus utile. Moi, je le dis toujours comme exemple. Quand je vais donner un coup de main à des trucs genre les Restos du Cœur, c'est pas pour aller faire la vaisselle. C'est pas pour aller peler les légumes. C'est pour aider les gens à rédiger des documents sur le plan administratif. C'est un choix. C'est juste que là, je suis peut-être plus utile parce qu'il y a moins souvent des gens qui savent le faire.
Très, très honnêtement. Oui. T'es vachement moins bon en épluchage de légumes.
Non, mais ça, je suis assez d'accord. Et c'est vrai qu'Yann me le disait. C'est vrai que ce côté-là, j'étais quand même assez pathétique. Quand il épluche des légumes, il va une fois et demie à deux fois plus vite que moi. C'est quand même infernal. Par contre, pour déveiner un foie gras, alors je suis désolé, mais excuse-moi,
il n'y a pas photo. Ceci dit, le foie gras au Resto du Cœur, comment dirais-je.
Alors, une autre question. Oui, au milieu, là-bas.
Merci. Moi, je voulais revenir sur la réflexion au sujet de la montée du communautarisme. Dire que la solution que je propose, c'est de mettre tous les communautaristes à la porte et de ne rester qu'entre personnes qui ne sont pas communautaristes.
Voilà. C'est vachement bien parce que du coup, tu crées un nouveau communautarisme. Et là, j'ai envie de rire avec toi et de dire c'est super.
Non, c'était pas tellement qu'on a protesté contre le communautarisme ou quoi que ce soit. On a simplement dit, les mecs, n'oubliez pas d'aller à la rencontre de ceux qui, a priori, ne vous intéressent pas. Et s'il y a un message que je peux poser, le seul, c'est de dire, c'est pas parce qu'a priori ça vous concerne pas que ça vaut pas la peine d'aller fouiller un brin, ne serait-ce que par curiosité. Faites preuve de curiosité, faites preuve d'empathie par rapport à l'autre en face, qui a plein de choses. Et personnellement, mes rencontres ont été avec des gens totalement improbables. Tu me donnes la biographie d'Ayerdal par rapport à la mienne. Tu me dis d'où il vient, je te dis d'où je viens. Il n'y a aucune raison, aucune, qu'on se rencontre.
Et, vous êtes et
une fois rencontré, il n'y a aucune raison qu'on se parle. Hein, à la limite, on pourrait se jeter des pavés l'un l'autre de chaque côté du truc, mais c'est l'extrême limite. Sauf que, désolé, c'est une des rencontres les plus importantes de ma vie. Donc ça, c'est l'exemple qui me consiste à marteler en disant « mais allez voir ». Allez au contact, allez au poutou, allez échanger les phéromones, allez partager quelque chose. Et vous allez voir qu'on en ressort beaucoup, beaucoup plus riche qu'on y est entré.
D'abord, une remarque au festivalier qui vient de proposer le communautarisme des anticommunautaristes.
Tiens, je connais cette voix.
Tu connais cette voix, Yael ? Ouais, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas entendue ici. Il me semble que Mike Reisnick a publié dans la revue Galaxy il y a une vingtaine d'années, le dernier a quitté la planète et prié d'éteindre le soleil, qui globalement reprend cette idée. C'est une short story de 2-3 pages qui est absolument superbe. Alors, puisque pratiquement tout le monde m'a oublié depuis longtemps, il faut quand même que je sois fidèle à ma réputation. Et en conséquence de ça, j'ai envie de vous poser une question. En dehors de vous, il n'y a pas grand monde qui a apprécié Étoile Mourante au moment où le bouquin est sorti. Et il y a eu beaucoup de gens pour dire, en gros, j'aime beaucoup lire Dunyac, J'aime beaucoup lire Heyerdahl, mais enfin, franchement, le truc qu'ils ont commis ensemble, ils auraient mieux fait de se dispenser et puis de se contenter de faire ce qu'ils savent faire l'un et l'autre, c'est-à-dire d'Uniac écrire des nouvelles superbes. Heyerdahl poussait son cri de gueule dans ses romans parce que ce truc-là, il fait quand même 2 millions de signes, c'est absolument illisible, c'est chiant à mourir, on s'emmerde, etc. Et c'est 15 ans après que finalement tout le monde est content. Ici, tout le monde semble apprécier le bouquin. Je doute qu'il y ait beaucoup de gens qui l'aient lu jusqu'au bout, en dépit des couleurs qui l'animent à la fin. Comment vous réagissez à ça 15 ans plus tard? Et s'il vous plaît, dites-nous pourquoi vous allez vous remettre à faire quelque chose comme ça, alors que vous êtes si bons, indépendamment l'un de l'autre, quand vous écrivez chacun de votre côté, ce qui ne vous empêchera pas, par ailleurs, de passer des nuits blanches à faire la fête ensemble. Mais par pitié, épargnez-nous, étoile mourante, et faites ce que vous savez faire, ça nous fera le plus grand bien. Merci.
Bruno est inimitable. Alors c'est vrai que c'est un bouquin, on a eu énormément de détracteurs.
C'est un livre qui a fait débat, on va dire.
Mais on a quand même fait 50 000 ventes en un temps record, ce qui est assez rare dans le domaine de la science-fiction, particulièrement quand on est francophone. Donc malgré les grosses claques qu'on s'est pris, il y a eu des revues qui ont, au moins une, qui a consacré pratiquement un numéro complet à nous descendre en flammes. Ils l'ont fait avec intelligence, avec savoir, avec connaissance, avec qu'importe. Ça ne nous a pas forcément fait rire tout de suite, il faut être tout à fait honnête. De la même façon que quand des gens nous ont demandé d'aller... alors bon, on a toujours fait un truc avec Jean-Claude. Il faut savoir quand même que j'ai écrit toutes les nouvelles de Jean-Claude et que Jean-Claude a écrit tous mes romans.
Ou l'inverse.
Ou l'inverse, mais personne ne le sait. Donc on va continuer gentiment, mais pourquoi on veut revenir dans les étoiles, hein, finalement? Pourquoi il y a des gens qui ont encore qui s'inscrivent au projet Mars? C'est un petit peu, ça revient au même, quoi. C'est comme le disait Jean-Claude. Maintenant, on a un petit peu fait le bilan du travail qu'on avait fait avec Étoile Mourante. On constate bien que le communautarisme contre lequel on essaie d'alerter tout le monde n'a fait que s'accroître. On va essayer de donner d'autres pistes. On a aussi vachement envie de se faire plaisir, de travailler tous les trois. Et avec d'autres aussi. Donc c'est peut-être le moment de parler de ces projets là qui tombent, là, qui arrivent tout bêtement.
Moi, juste, alors, enfin, juste pour répondre un petit peu à Bruno, mais sur la deuxième partie de son intervention, là, parce que c'est vrai que je me souviens moi de cette période où effectivement, moi j'étais un pur fan absolu du bouquin, même si j'étais pas l'auteur de la couverture, mais j'arrêtais pas de dire putain, j'ai 22 mètres de bois sur le dos à placer dans des expos. Lisez Étoile Mourante, au moins vous m'appellerez ensuite pour placer l'expo. Enfin, c'était pas exactement ça, mais et je comprenais pas tellement en fait le fait les détracteurs quoi. Finalement, je me disais soit ils l'ont pas lu et c'est juste le poids du bouquin qui les emmerde, parce qu'en fait c'est globalement ça quoi. On mettait en avant souvent le côté gros pavé. Et à côté de ça, on tombe sur des fous absolus du livre, hein, dont aujourd'hui, par exemple, l'actuel directeur du festival, par exemple, pour reprendre la lignée, disons, la lignée autour des Utopiales, par exemple. Et moi, c'est vrai que j'ai qu'une envie, c'est me replonger dedans, comme j'en parlais tout à l'heure, graphiquement et dans cet univers-là, parce que effectivement, ça m'intéresse. Et puis parce que là, c'est effectivement parti pour... On va bouffer des étoiles mourantes encore quelques années, en fait. Autant être prévenu. Donc, ceux qui veulent pas, tant pis. Mais ça va être encore plus gros, quoi. Et du coup, moi, je suis content quand même que ça soit un vrai projet, quoi.
Mais alors, ce projet, il y a eu plusieurs allusions. Est-ce que vous voulez en parler?
Ben, en fait, quand on voit que la réédition d'étoiles mourantes est faite par Mnemos, qui fait quand même de beaux objets... et qu'ils ont la particularité de faire un certain type d'objet qui n'existe chez nul autre éditeur, peut-être qu'on se dit il y a peut-être, c'est peut-être un indice.
Ce qu'il y a aussi, c'est que personnellement, ça fait pratiquement 30 ans que je vis avec mes animaux-villes. J'ai publié une première nouvelle. Pour vous dire, j'étais persuadé d'éliminer le sujet en une nouvelle qui s'appelait Paranamanco, que j'ai publiée au Canada. Et une fois que la nouvelle a été terminée, je me suis trouvé face à l'abîme incommensurable de tout ce qui me restait à dire sur le sujet. Et là, j'ai eu l'espèce de frémissement. Je me suis dit, ça, c'est une vie. Et ça va être ma vie. Et j'ai tout le temps su que les animaux-villes étaient à l'arrière-plan de mon esprit. Et ils y sont. Et on continue à réfléchir dessus. Et il y a les mois, je peux vous dire que ça fait quelques années qu'on échange sur le sujet. Et maintenant, tout ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on a pris des décisions. Qu'on a décidé d'y aller. Toujours pareil par rapport à cette notion de est-ce qu'on est réellement au bout, est-ce qu'on est dans le ras-le-bol, etc. À un moment donné, on se recentre
sur ce qu'on sait faire, sur ce qui est l'endroit où on est le plus pertinent, peut-être le plus incisif, le plus utile. Et on ne fait que ça. Et ça va être, en ce qui me concerne, les étoiles mourantes, enfin les animaux vils vont revenir dans l'équation parce que c'est quand même là que j'ai le sentiment que j'ai quelque chose de personnel à dire.
Alors, vous allez revisiter les animaux vils. Je vous coupe un peu dans votre élan, mais j'aimerais bien revenir un tout petit peu en arrière pour juste savoir quels sont les combats que vous allez conserver. Parce que finalement, vous disiez tout à l'heure, un peu tous les trois, qu'il y a eu un coup de fatigue. Mais est-ce que vous allez continuer à vous battre et pourquoi ?
On va continuer à se battre parce qu'on avance, parce qu'on respire. Oui, et
pour quelle chose ? Pas pourquoi se battre, mais pour quelle cause ? Non ?
Bon, c'est une question trop difficile à ce stade. C'est extrêmement compliqué. Alors, on peut parler du combat éventuellement dans lequel nous nous impliquons, qui concerne les auteurs, les traducteurs, les illustrateurs, les dessinateurs, les artistes.
Le rapport au numérique, par exemple, on fait beaucoup de choses en ce moment.
Voilà. Il y a tout ça. Il y a des combats qui sont plus de l'ordre de l'humanitaire. Tous les SDF qui sont en dessous de chez nous.
Mais là, on est dans le combat citoyen, on n'est pas dans le combat écrivain. Ce qu'on fait, je dirais, de notre vie au quotidien, c'est on est des citoyens comme les autres. Et à ce stade-là, on décide, mais c'est notre choix d'agir d'une autre certaine façon. Et on n'est pas en train de revendiquer le fait que tout le monde doit le faire. On est en train de revendiquer le fait que nous, on veut avoir le droit de le faire à notre façon, c'est tout. Par contre, en tant que fictionnel, de quoi va-t-on donner envie ? Parce que le but n'est pas de dénoncer, le but n'est pas d'agiter le drapeau, il est de donner envie. Ben, c'est, je pense, toujours pareil, donner envie d'aller vers l'autre. Donner envie d'éliminer tout ce qui peut être repli sur soi, tout ce qui peut être a priori, pour aller simplement, naïvement, on a gardé cette naïveté, naïvement au contact.
Bon, et au besoin, en coupant quelques têtes. Mais
C'est vrai que pour m'occuper d'un jardin, il y a des moments où j'arrache des herbes.
Voilà.
Il y a quelques rameaux qu'il faut...
J'espère que les mauvaises herbes sont prévenues. Ah non, c'est nous les mauvaises herbes.
Alors, une autre question. On a le temps pour peut-être soit une grosse question, soit deux petites. Ah, une question devant.
Natacha.
Natacha a écrit un bouquin absolument admirable dans lequel elle a consacré des pages aux animaux vils qui nous font rougir, il faut le savoir.
Et à Yardal aussi, l'imaginaire de la révolte. Moi, je voulais dire, justement, à contrario peut-être du monsieur derrière, que je n'ai pas l'honneur de connaître, que moi, je crois que...
Bruno de la Chiesa.
Voilà, ben Bruno. Enchanté, Bruno.
Fondateur du festival.
Moi, je crois qu'au contraire, l'intérêt de votre livre, et c'est pour ça qu'il va provoquer, en quelque sorte, ben, peut-être de la détestation et certainement du fanatisme. Moi, je fais partie, évidemment, des grandes fans de ce livre. C'est parce que, pour moi, il y a deux perspectives qui sont vraiment absolument essentielles. Un, il y a la rencontre de deux imaginaires singuliers, l'imaginaire de Jean-Claude Daniac et l'imaginaire d'Ayerdal, qui n'étaient peut-être absolument pas faits pour se rencontrer au départ. Deux imaginaires, deux styles, et surtout une expérience littéraire, je dirais, complètement folle, entre guillemets, qui est cette écriture à deux. Et ça, c'est suffisamment rare dans la littérature pour que cela soit souligné. Et moi, je ne peux, et évidemment, j'attends votre futur projet avec beaucoup d'impatience, parce que je crois qu'il faut absolument que vous continuiez cette expérience-là, qui est, pour les lecteurs, quelque chose de tout à fait extraordinaire, et il faut le continuer. Voilà, donc c'était pas du tout une question, mais voilà, j'enfonce le clou.
Je vais juste pousser un petit peu plus loin. Non, effectivement, l'expérience, on va la poursuivre. On va la poursuivre non pas à deux, mais à trois, voire un petit peu plus, d'ailleurs. On a décidé de travailler autrement, parce que c'est vrai que Étoile Mourante, c'est Jean-Claude et moi qui en avons été les moteurs principaux. Gilles, après, s'en est emparé et a fait toutes ces choses merveilleuses. Et aujourd'hui, on a décidé de travailler à l'envers. On a demandé à Gilles d'initier par son imaginaire et sa mise en image.
C'est cette image-là, d'ailleurs, la main, voilà, que l'on voit là au-dessus, qui est la seule image de tout le diaporama, qui n'a aucune raison d'être, en fait, dans ce diaporama, puisqu'elle n'existe pas dans Étoile Mourante. Et j'ai voulu quand même mettre cette main dans les images que je t'ai proposées, juste pour montrer, effectivement, que le troisième volet, je dirais, s'attaquer réellement à l'autre, puisque c'est le seul individu qu'on ne connaît pas encore dans Étoile Mourante ou Étoile Morte actuellement. Et c'est ma petite contribution au démarrage de tout ça.
Voilà, nous allons illustrer. Gilles.
Et Bruno, pour te parler de communautarisme, justement, pour, moi, il y a vraiment un livre intermédiaire entre Étoile morte et Étoile mourante, celui de la première séparation, celui où, justement, la situation est arrivée à une telle explosion que on est obligé, les animaux vils sont obligés de séparer les groupes humains en sous-sections pour éviter littéralement qu'ils s'annihilent, qu'ils se détruisent à force de conneries. Et ce livre-là, que je n'étais pas du tout capable d'écrire il y a 20 ans, il est devenu d'une urgence extrême pour moi. Et je vais l'écrire et je commence à savoir par quel bout le prendre. Voilà.
Bien, donc de nombreuses annonces et anticipations de lecture passionnante. Nous allons achever ici cette table ronde en remerciant nos participants et le public. Et en vous souhaitant donc de bonnes lectures à la poursuite de Heyerdahl, Dugnac et Gilles Francescano, qui sont donc en dédicace, me semble-t-il.
On va aller signer les rares exemplaires qui restent.
Voilà, qui vont pouvoir signer. Voilà. Merci.
Et merci à vous d'être là.